Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Journal présenté par Jocelyne Moussa Oponde.
La ville de Lubumbashi en confinement ce mardi pour rechercher les personnes ayant été en contact avec le cas confirmé de Covid-19. La décision est du gouverneur du Haut-Katanga. Stoppé pendant plusieurs mois à Bukavu, les travaux de réhabilitation des routes dans les cadres du programme d'urgence du chef de l'État ont repris depuis 3 jours. 2 kilomètres de routes ont même déjà été asphaltés. Notre invité ce matin est Idriss Moufouka Koudié, ingénieur à l'INPP. L'Institut national de préparation professionnelle a conçu des lave-mains automatiques pour lutter contre le Covid-19. Bonjour à tous. Lubumbashi en confinement ce mardi 28 avril. La décision du gouverneur est consécutive au premier cas positif du coronavirus détecté dans la ville. L'objectif est de rechercher tous les contacts du malade ainsi que tous les contacts des contacts afin qu'ils puissent être testés. Pour cela, le gouverneur demande à tout le monde de rester à la maison. Jean Gandou nous en dit plus.
Depuis que la ville de Lubumbashi a enregistré le premier cas de Covid-19, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a promis qu'il rendrait public d'autres mesures pour arrêter la propagation de cette maladie à Lubumbashi et partant dans toute la province du Haut-Katanga. Et ce lundi, Jacques Yabula Katwe a annoncé le confinement des 24 heures pour la ville de Lubumbashi de ce mardi 28 avril. L'objectif est de rechercher non seulement pas tous les contacts du premier cas, mais aussi tous les contacts des contacts du malade. Un jour après, ça sera le tour de la ville frontalière de Kasumbalesa de vivre aussi son premier confinement. Kasumbalesa est donc la porte d'entrée du premier cas qui revenait de Nairobi au Kenya en transitant par la Tanzanie et la Zambie. Tout le monde se mobilise pour barrer la route à cette pandémie. C'est ainsi que le député honoraire Yélin Kiengedjashi a aussi lancé un message à toute la population d'observer les mesures de prévention telles que préconisées par les autorités. Notons que 21 contacts du premier malade sont déjà identifiés. Quant au malade lui-même, son état est jugé stable. Il est admis au centre d'isolement situé à l'aéroport de Lubumbashi. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Va-t-on vers une révision du budget de la RDC? Le pays subit en ce moment un ralentissement très sensible de ses importations et de ses exportations à cause de la crise liée au coronavirus. L'une des conséquences de cette situation est la baisse de recettes nécessaires pour le budget de l'État. Hier, à Kinshasa, le Premier ministre a rencontré les présidents de 2 chambres du Parlement pour parler de cette question. Sylvestre Ilunga Ilunkamba reconnaît d'ailleurs que la baisse des recettes entraîne notamment des arriérés des émoluments des élus nationaux et provinciaux. Je vous propose de l'écouter au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons échangé sur le cadre macroéconomique sur lequel nous avons bâti les prévisions de recettes et de dépenses est totalement bouleversé par la pandémie. Nous sommes une économie extravertie, ça veut dire nos exportations et nos importations se font plus difficilement aujourd'hui qu'hier. Et nous devons essayer de nous adapter à la situation parce que le budget qui a été voté, nous aurons certainement difficile à réaliser parce que les recettes ne suivent pas alors que les dépenses sont toujours importantes. Nous avons discuté avec les présidents de l'Assemblée nationale et le Sénat pour voir comment on peut arriver assez rapidement à un collectif budgétaire pour tenir compte de la réalité d'aujourd'hui. Et nous avons échangé, bien sûr, sur la façon de voir comment apurer les arriérés concerne un certain nombre d'institutions.
Et puis cette inquiétude de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, beaucoup de parents, par peur d'attraper le coronavirus, n'emmènent pas leurs enfants dans les centres de santé, ce qui pourrait entraîner un ralentissement de la vaccination de routine. Dans un communiqué publié hier, l'UNICEF revient sur l'importance de la vaccination de routine pour protéger les enfants. L'année dernière, la RDC a connu l'une des pires épidémies de rougeole au monde, avec plus de 5300 décès enregistrés. L'une des causes de cette épidémie était la faible vaccination des enfants. Michel Kifinda Ngoy nous résume ici la communication du Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
Bien qu'épargnés par l'impact du coronavirus, les enfants seront affectés par les réticences de leurs familles à se faire soigner dans les centres de santé, note le communiqué de l'UNICEF. Pour le chef de santé de l'UNICEF en RDC, la pandémie de Covid nous rappelle cruellement à quelle vitesse une pandémie peut se propager sans vaccin pour protéger les personnes et les communautés. C'est pourquoi, ajoute Xavier Crespin, il est maintenant plus que jamais important de garantir que les vaccinations de routine demeurent protégées pendant la pandémie afin de minimiser les risques de propagation de la maladie et les pertes de vies humaines. Pour l'UNICEF, dans la province du Nord Kivu par exemple, plus de 3000 cas de rougeole ont été signalés depuis le 1er janvier 2020. En Ituri, une campagne de vaccination est actuellement en cours pour vacciner contre la rougeole plus de 53 000 enfants de 6 à 59 mois. Devant les éventuelles résistances des parents à aller faire vacciner leurs enfants et les surcharges des services de santé face au Covid-19, l'UNICEF appelle le gouvernement de la RDC à poursuivre les services de vaccination de routine.
Évolution du Covid-19 en RDC, le cumul depuis les débuts de l'épidémie est de 471 cas confirmés. 12 nouveaux cas ont été confirmés hier lundi, dont 10 à Kinshasa et 2 au Congo central, précisément à Matadi. Au total, il y a eu 30 décès, 56 personnes guéries. En outre, 226 cas suspects sont en cours d'investigation. 6 nouvelles personnes ont été guéries et de ce fait sont sorties à des structures de santé. 312 patients sont en bonne évolution. Désormais, cette province sont touchées par la maladie, notamment Kinshasa, le Nord et le Sud Kivu, l'Ituri, le Kwilu, le Haut-Katanga et le Congo central. Rendons-nous à présent à Bukavu. Près de 2 km de route vient d'être asphaltée en l'espace de 3 jours. Dans cette ville, chef-lieu du Sud Kivu, on constate une accélération de réhabilitation de routes urbaines depuis le week-end dernier. Les travaux réalisés par l'entreprise Sokok avaient pourtant été stoppés pendant des longs mois. Ils sont faits dans les cadres des programmes d'urgence du chef de l'État. Emmanuel Elamejo Kabedi nous en parle.
Les habitants de la ville de Bukavu sont maintenant d'accord que c'est la pression de la justice congolaise qui entraîne l'exécution rapide des travaux de route au sud de Kivu. La réhabilitation du boulevard Lumumba en commune d'Ibanda se déroule à présent à une vitesse de croisière. 2 jours seulement ont suffi pour voir les tronçons devant l'hôtel de ville et le monument de la paix être couverts du goudron. La pose de la couche de l'enrobé s'est poursuivie ce lundi sur le tronçon allant de la place mobile à la place Mulamba en commune d'Ibanda. Ces travaux du programme de 100 premiers jours du chef de l'État, lancé à Bukavu depuis une année, sont exécutés par la société congolaise de construction Sokok. Le week-end dernier, tous les hauts cadres de la Sokok ont débarqué à Bukavu en provenance de Goma pour superviser les travaux de route. La Sokok affirme avoir gagné un contrat de réhabilitation d'environ 20 km de routes urbaines, dont près de 9 km sur la route de l'aéroport de Kavumu. En dehors du boulevard Lumumba, les avenues Sayo et Lundula en commune d'Ibanda sont aussi prévues pour la réhabilitation. Le financement est assuré par le FONER, tandis que l'OVD se charge de la surveillance. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
C'est en principe à partir d'hier lundi que les agriculteurs de Binza dans le Rutshuru ont été à nouveau autorisés par l'ICCN à accéder à leurs champs situés dans le parc des Virunga au Nord Kivu. Ce moratoire de l'ICCN est pris pour 3 mois, mais ces agriculteurs ne sont pas entrés dans ces champs. Ils estiment que les conditions que leur pose l'ICCN sont trop restrictives et pas à leur avantage. Denise Loukesso nous explique.
Aucun agriculteur n'a accédé à son champ ce lundi, jour de l'entrée en application de cette mesure de grâce. Au motif, les conditions données par l'ICCN constitueraient selon eux un piège. Dans ces documents, disent-ils, l'ICCN leur donne 8 conditions. C'est entre autres de ne récolter que les produits vivriers, ce que digèrent mal les agriculteurs qui disent disposer d'autres produits pérennes. L'entrée comme la sortie étant conditionnée par le dépôt de sa carte d'identité, moyennant un jeton, et cela ne se ferait que par une seule porte d'entrée, ce qui constitue pour les habitants de Binza les points de discordance. Après analyse profonde de cette décision de l'ICCN, ces derniers estiment que ces conditions ne rencontrent pas leurs attentes. Ils demandent à l'ICCN de les alléger. Pacifique Maombi, président de la société civile de Niamilima.
Quand il a parlé d'une mesure de grâce, que ce soit une grâce par excellence, donc nous demandons que nous puissions accéder à nos champs dans toute quiétude.
Rappelons que dans sa décision du 22 avril dernier, l'ICCN avait dit avoir accordé ces moratoires seulement en réponse aux mesures d'urgence sanitaire décrétées par les chefs de l'État. Des mesures qui, selon l'ICCN, exigent les renforcements de la résilience alimentaire des populations. Goma, Denise Louquet sur Radio Kapi.
Restons au Nord Kivu pour parler de l'inhumation hier à Nirangongo de 7 des 13 éco-gardes tués vendredi dernier dans une embuscade des présumés FDLR près de la station ICCN de Rumangabo. Les corps des 6 autres ont été acheminés, les uns dans le grand nord de la province et les autres au sud Kivu sur demande de leurs familles respectives. Entre-temps, une confusion règne jusqu'ici concernant le mobile de ces meurtres. Les défenseurs locaux de l'environnement exigent une enquête indépendante. Plus ces détails avec Bernard Danyangi.
Les corps des 7 éco-gardes reposaient désormais dans leur dernière demeure au cimetière de Macao, dans le territoire voisin de Nyiragongo. Lors de la levée des corps à la morgue de l'hôpital de Kishiro et sous une forte émotion, un défenseur local de l'environnement a exigé l'ouverture d'une enquête indépendante pour que les coupables soient réprimés. Maître Olivier Ndolé, de l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits humains, ACDH.
C'est une situation déplorable, mais je crois l'essentiel sera de retenir qu'ils ont mené un beau combat par rapport à la protection de la faune et de la flore. Et pour les honorer, nous sommes en train de voir comment encore mobiliser pour que la communauté internationale, à travers le Conseil de sécurité, pourquoi pas le bureau du procureur près la Cour pénale internationale, puisse désormais se saisir de ce genre de cas.
Rappelons que ce vendredi dernier, vers 11h locale, que les 13 éco-gardes et 4 civils ont péri dans cette attaque près de Rumangabo. Alors que les responsables du parc disent que l'attaque cible les civils, d'autres sources avancent l'hypothèse d'actes de représailles des rebelles FDLR. Ces derniers auraient subi de fortes pertes dans une traque que mène actuellement les FARDC avec une possible collaboration des éco-gardes dans le parc national de Virunga. Signalons que ce plus ancien parc national d'Afrique a enregistré plus de 164 éco-gardes tués par des hommes armés ces 20 dernières années, disent les sources de l'ICCN. Goma, Bernard Dengangi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Des dizaines d'ouvriers d'un chantier de construction, dont celui de la raffinerie construite par Aliko Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique, se sont révoltés hier lundi contre les mesures de confinement à Lagos, capitale économique du Nigeria. Les employés se sont soulevés pour protester contre les mesures de confinement car ils veulent retourner au travail, a expliqué à l'AFP le porte-parole de la police locale. Ils ont blessé 5 policiers et vandalisé 2 postes de police alentour, a-t-il indiqué, soulignant également que 51 émeutier avait été interpellé et qu'il serait traduit en justice.
L'invité.
Pour éviter la propagation du coronavirus, l'Institut national de préparation professionnelle, INPP, fabrique et met à la disposition du public différentes sortes de machines automatiques pour laver les mains. Pour en parler, nous recevons l'ingénieur Idriss Moufouka-Koudié. Il s'entretient avec Richard Junior Kamunga.
Ingénieur Idriss Moufouka-Koudié, l'INPP a conçu les machines pour les lavages des mains afin de lutter contre COVID-19. Comment fonctionnent ces machines?
L'INPP a conçu des types de lave-mains. Nous avons la première catégorie ou les premiers types qui est mécanique, qui fonctionne à pédale. Et donc, on utilise les deux pieds pour avoir le savon et puis l'eau. Et nous avons également mis sur pied un lave-main automatique qui fonctionne avec l'énergie solaire. Et celui-là, sa particularité est que vous touchez à rien. Dès que vous mettez la main sur le premier robinet, le savon jaillit. Vous mettez la main sur le deuxième robinet, vous avez de l'eau. Et ensuite, vous passez au sèche-main. Et une autre particularité, c'est un lave-main qui a également un thermomètre qui peut prélever directement la température de la personne qui vient se faire laver les mains, juste pour avoir des indicateurs et par rapport aux gens qui sont dans une zone. Et donc, ces lave-mains fonctionnent avec l'énergie solaire qui peut être déployée partout à travers le pays et même là où il n'y a pas de l'énergie. Et c'est une solution vraiment adaptée pour les contextes congolais.
Bon, ces machines seront mises à l'usage public. Les cycles de fonctionnement est comment?
Alors, il faut dire que nous avons fait des essais en interne et le cycle de fonctionnement est très, très adapté. Et déjà, en interne, nous sommes en train de faire des tests pour aller jusqu'à 300-500 cycles. C'est une manière pour nous de savoir si ces équipements vont persister. Et donc, de ce côté-là, il n'y a aucun souci.
Est-ce que vous avez assez de matériel pour fabriquer ces machines?
Exactement, ça c'est la première préoccupation. Nous avons assez de matériel parce qu'il faut dire que ces machines et les outils que nous utilisons sont à 70% congolais. Donc on passe aussi à un système de recyclage pour certains équipements, et ce qui va faire qu'on peut en produire à grande échelle sans problème.
Vous fabriquez combien de machines par jour ?
Par jour, on fabrique 4 à 5 lavements parce qu'on travaille en chaîne. Et donc, il y a ceux qui sont uniquement pour la menuiserie, ceux qui sont là pour les designs. Il y a un autre groupe qui est là pour la plomberie, un autre pour les dispositifs électroniques. Et puis, nous supervisons. Mais nous avons la possibilité de produire plus. S'il y a la commande, une grande commande, on peut mettre encore plus de personnel et en place pour la duplication ou la multiplication à grande échelle de ces lavements automatiques.
À quand l'installation de ces machines dans la ville de Kinshasa, parce qu'il y a l'épicentre de cette maladie ici à Kinshasa et dans les provinces?
Il faut dire que l'INPP a mis au service de l'État, c'est une manière pour l'INPP d'appuyer le gouvernement congolais et par rapport au message du chef de l'État sur l'état d'urgence sanitaire. Et nous profitons également pour lancer cet appel. Donc la multiplication à grande échelle, ça c'est, il faut des partenaires. Nous lançons cet appel, que le gouvernement appuie cette technologie, voire même des partenaires internationaux ou locaux qui sont sur place. Mais il faut dire que nous commençons la première phase expérimentale dans la ville de Kinshasa. Nous avons ciblé quelques sites à travers la ville qu'on va expérimenter. Et je crois que si le gouvernement nous appuie, appuie l'INPP avec d'autres partenaires internationaux qui sont impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Et je crois que ça serait une bonne chose. Il faut dire également que c'est grâce à l'inspiration de M. Maurice Tsukuya, qui est notre ADG, que nous sommes arrivés à concevoir ces dispositifs. Et nous avons encore beaucoup, beaucoup d'inventions que nous sommes en train de vouloir mettre en place pour accompagner le président de la République dans la lutte contre cette pandémie.
Est-ce que vous avez des difficultés pour en fabriquer jusque-là et acheminer parfois dans des provinces?
Bon, il faut dire que toute invention a toujours des difficultés. Déjà la conception, des petites contraintes techniques également ne manquent pas. Et ce qui est intéressant, nous sommes en train de travailler. Quand il y a une contrainte, on cherche toujours des voies et moyens pour la contourner. Mais jusque-là, les difficultés majeures ne sont pas vraiment à signaler.
Ingénieur Idriss Moufoukakoudié, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.